Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il n'est pas rare que la Sainte Écriture compare notre vie chrétienne à un combat. Ainsi, au livre de Job, il est dit « Militia est vita hominis super terram, et secudies mercenari dies eius ». La vie de l'homme sur la terre est un service militaire, une milice, militia, et ses jours sont comme ceux du mercenaire. Saint Paul aime particulièrement ces images guerrières et militaires, comme par exemple dans l'Épître aux Romains, où il nous donne le signal du combat. Voici ce qu'il écrit : « Le jour approche, revêtons les armes de la lumière ». Fréquemment, il parle dans ses épîtres des armes du chrétien. Ainsi, dans la deuxième épître aux Corinthiens, voici ce qu'il écrit : les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire des armes terrestres. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. De même, à sa chère communauté de Thessalonique, il fait cette recommandation : revêtons la cuirasse de la foi et de la charité. Prenons pour casque l'espérance du salut. Il est vrai que saint Paul a longtemps été sous la surveillance et la garde de légionnaires romains. Il en connaissait ainsi tout l'équipement. Aussi s'en sert-il dans ses épîtres, sous la motion de l'Esprit-Saint, pour nous parler du combat spirituel que nous avons tous à mener. Car pour avoir une vraie vie spirituelle, une véritable intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être des guerriers. Saint Paul commence d'ailleurs ce passage de l'Épître aux Éphésiens par une exhortation au combat. « Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » C'est bien un ordre, c'est bien un appel au combat. Il précise cependant qu'il ne s'agit pas tant de compter sur nos propres forces que sur celles de Dieu. « Fortifiez-vous dans le Seigneur » et dans sa force toute puissante. Car sans la grâce de Dieu, le combat spirituel est nécessairement voué à l'échec. C'est de notre Seigneur que vient toute force, et c'est lui seul qui nous rend invincibles. De là, un second commandement donné par saint Paul dans l'Épître d'aujourd'hui, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu ». Le mot grec est plus précis, panoplia, une panoplie, c'est-à-dire un équipement complet tant pour l'attaque que pour la défense. Pan en grec signifie tout et oplon veut dire arme. La panoplie, c'est donc l'équipement complet d'un guerrier. Si cet équipement nous est donné par Dieu, c'est parce qu'il y a un ennemi à combattre, le diable et ses démons. Saint Paul les nomme très clairement, contre les puissances et les principautés, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal des régions de l'air. Le monde moderne ne croit plus en l'existence du diable. Et c'est là sa plus grande ruse. La plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas pour mieux prendre les âmes et les conduire en enfer. Pour saint Paul, au contraire, il n'y a aucun doute pour lui. Le diable, les mauvais anges existent. Ils sont nos réels adversaires dans le combat spirituel. C'est d'ailleurs une vérité de foi définie que les anges ont eu une épreuve à subir et qu'un certain nombre d'entre eux se sont révoltés contre Dieu et ont été chassés en enfer. Ils cherchent depuis la création d'Adam à perdre les hommes et à leur faire perdre ce qu'ils ont eux-mêmes perdu, la vision béatifique, le ciel, la vision de Dieu. À cette fin, pour perdre les hommes, le diable a différentes attaques, mais la plus commune est celle que nous subissons tous, sans exception, est la tentation. L'offertoire de cette messe fait mention de la tentation qu'a subie Job. Nous sommes tous tentés par le diable à tout instant. Le diable utilise la tentation de différentes manières. Il l'utilise quelquefois par lui-même, directement, en nous suggérant des mauvaises pensées, contraires à la foi, contraires à la piété, à la confiance en Dieu, contraires à l'amour de Dieu, contraires à l'humilité, à la modestie, à la douceur, à la patience, à l'obéissance, à la pureté. D'autres fois, et c'est le plus commun, il se sert des créatures, surtout des hommes, au milieu desquels nous vivons. Il y a en effet beaucoup d'hommes qui ont le malheur d'être les esclaves du démon et qui coopèrent par leur péché, leur vie déréglée, à son plan de perdition. Mais de façon plus large, le diable se sert aussi des défauts et imperfections de tous les hommes, même de ceux en état de grâce. Et que de mal peut faire une mauvaise compagnie, un mauvais livre, et aujourd'hui les mauvaises choses qui sont si faciles d'accès sur les écrans. Toutefois, le diable n'aurait que très peu de prise sur nous s'il ne trouvait en nous-mêmes de fortes inclinations au mal qui sont pour lui de puissantes alliées. Ce sont les trois concupiscences. Le mot concupiscence vient d'un mot latin qui signifie convoitise, désir passionné. Depuis le péché originel, nous naissons avec ces trois concupiscences. Le baptême les a affaiblies, mais non pas supprimées. La première est un désir grossier de satisfaire tous les mauvais instincts de notre chair, par la gourmandise, la mollesse, l'indolence, la paresse, et surtout par les plaisirs indécents. La seconde est un attrait pour les richesses, pour les biens de ce monde, et en général pour tout ce qui brille au dehors. La troisième concupiscence est un désir passionné pour les honneurs et pour l'estime, qui nous fait rechercher sans cesse les compliments, les louanges, les succès et tout ce qui peut flatter notre petite vanité. Ordinairement, le démon nous attaque par l'une de ses concupiscences plus fortement et plus facilement que par les deux autres. Il est très important pour nous de savoir par quelle concupiscence le démon nous attaque davantage. Dans l'emploi des tentations, le démon a plusieurs plans de bataille. Tantôt, il cherche à prendre de force la place en suscitant de fortes tentations. Tantôt, au contraire, quand il ne peut pas faire mieux, il nous harcèle au moyen d'une quantité de petites tentations. Il espère par là nous fatiguer, nous ennuyer, nous arrêter dans la pratique du bien et nous rendre désagréable le service du bon Dieu. Telles sont ses petites inquiétudes de conscience, ces tristesses vagues, ces scrupules qui viennent nous attrister sans cause bien connue. Tels sont ces petits dégoûts de la prière et des sacrements, ces désirs de revenir sur les confessions passées en croyant les avoir mal faites, ces velléités de connaître de mauvaises choses et autres impressions semblables. Il sait aussi, pour nous faire tomber au fond du gouffre, qu'il suffit dans un premier temps de nous rapprocher tout doucement du précipice, en nous amenant à négliger les petits devoirs. Comme dit le livre de l'Ecclésiastique, « Quis pernit modica, paulatim decidet ». Celui qui méprise, qui néglige les petites fautes, tombera peu à peu, paulatim, dans de plus grandes. Une autre des tactiques générales du démon est de faire considérer le péché, la désobéissance à la loi de Dieu, comme une chose insignifiante. « Ce n'est rien, nous dit-il tout bas, tout le monde fait cela, ce n'est qu'une petite faiblesse, et puis je pourrai toujours me confesser. » Cependant, après le péché, son langage change de ton. Le péché apparaît alors dans toute sa gravité. Ce qui attirait à lui a disparu. Il ne reste que la honte et le regret de l'avoir commis. Le diable pousse alors à la défiance vis-à-vis de la toute-puissante miséricorde de Dieu. Fausse confiance avant la faute et découragement après. Découragement qui peut aller jusqu'au désespoir. C'est tout le contraire qu'il faut pratiquer. Avant la tentation, pendant la tentation, crainte et horreur du péché, et si par malheur il y a eu chute, confiance sans borne en la miséricorde divine. Face à un ennemi aussi rusé, intelligent, expérimenté, les armes humaines ne suffisent pas. D'où le conseil que nous donne l'Épître d'aujourd'hui, d'aller nous servir dans l'arsenal divin. Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et rester debout, inébranlable en tout. Le jour mauvais. Dans toute vie chrétienne, il y a des jours de grands combats. Chacun a ses heures au jardin des Oliviers et son jardin du Golgotha. Des jours de luttes intérieures et extérieures. D'où l'importance de pratiquer chaque jour le combat spirituel et de se revêtir des armes dont saint Paul nous fait la description. Tout d'abord, la ceinture de vérité et la cuirasse de justice. Ces deux pièces d'équipement se rapportent à la nécessité d'être en état de grâce pour résister aux démons. La ceinture, ou le baudrier, selon saint Jean Chrysostome, désigne la foi théologale, et l'armure désigne la charité. La justice, en effet, n'est pas à prendre ici au sens strict qu'il a pris par la suite, mais au sens de sainteté, le fait d'être juste devant Dieu, d'être en état de grâce. L'état de grâce qui nous met dans la vérité et la justice, la sainteté de Dieu, est absolument nécessaire pour lutter victorieusement contre le démon. Que peut faire contre le diable une âme qui est privée de Dieu, qui est privée de sa grâce, qui est déjà sous l'emprise du diable, sous son pouvoir, à cause des péchés qu'elle a commis? La première chose à faire est de se confesser pour revenir dans la vérité et dans la justice de Dieu. Troisième pièce d'armement. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Saint Grégoire le Grand explique que les chaussures signifient une vie dure de mortification. Les chaussures étaient en effet fabriquées à partir de la peau et du cuir de bêtes mortes. Saint Jérôme donne une autre explication. Saint Jérôme voit dans les chaussures le symbole d'une âme intrépide, audacieuse, sans peur, chaussée pour aller au combat. Les deux choses sont nécessaires pour affronter le démon. La mortification, qui réduit l'influence des trois concupiscences, mortification de la chair, surtout aujourd'hui, où le confort moderne nous ramollit tellement, mortification des yeux aussi, pour garder la sainte vertu de pureté, et mortification de l'orgueil, de l'égoïsme que nous portons tous en nous. Et également, être chaussé pour aller au combat, ne pas craindre le démon et même le mépriser. Cette règle est très importante. Quand on a peur du tentateur, il devient un géant et nous écrase facilement. Alors que quand on le méprise, sans même faire attention à lui, le géant s'évanouit et devient un misérable petit nain. Monseigneur de Ségur nous recommande de faire ainsi dans toutes les tentations, mais principalement dans les tentations contre la foi, dans les tentations de découragement et de lâcheté, et dans les tentations contre la pureté. Mépriser le démon, détourner le regard de la tentation, s'occuper d'autre chose. Quatrième pièce de l'arsenal divin, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Il s'agit ici de l'esprit de foi, de l'union à Jésus dans les tentations. Dans les tentations un peu fortes et un peu longues, il est absolument nécessaire d'appeler notre Seigneur à notre secours. « Je peux tout en celui qui me fortifie », a écrit saint Paul aux Philippiens. Nous aussi, par la prière à notre Seigneur, nous pouvons repousser toutes les tentations, mais à la condition de l'utiliser comme un bouclier qui couvre tout le corps et que nous ne lâchons jamais. Notre foi dans l'efficacité de la prière doit être totale et nous ne devons jamais cesser de prier tant que la tentation dure. Il y a des tentations où arrêter de prier signifie tomber. Cinquième partie de l'équipement, le casque du salut. Il s'agit ici de notre confiance dans les mérites rédempteurs du Christ. Notre confiance dans l'union à notre Seigneur doit surtout s'appuyer sur sa victoire sur l'enfer, la mort et le péché par sa mort sur la croix. Il ne faut pas hésiter à faire un signe de croix dans les tentations, à se servir d'eau bénite aussi. Si l'on est seul, il faut le faire bien grand, bien complet, bien religieux, du front au cœur, de l'épaule gauche à l'épaule droite, sans en rien diminuer, avec une foi très certaine, très forte, dans la passion de notre Seigneur. Si l'on n'est pas seul, pour éviter de se singulariser, il suffit de se signer sur le cœur. Le démon est bien fin, nous dit le curé d'Ars, mais il n'est pas fort. Un signe de croix le met en fuite. Sainte Thérèse recommande, elle, beaucoup l'usage de l'eau bénite, surtout dans les tentations contre la pureté. Notre Seigneur lui montra plusieurs fois, sous une forme visible, des démons chassés immédiatement par l'eau bénite, comme des chiens fuyant devant des coups de fouet. Dernière arme, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée est l'arme la plus importante pour la défense et pour l'attaque. Saint Paul insiste ici sur la formation doctrinale qui doit surtout consister dans la connaissance de Dieu, connaissance de son catéchisme, connaissance de son histoire sainte et de façon générale de toute la doctrine catholique. En la matière, qui cesse d'étudier, de se former, perd le sens de la parole de Dieu, se fait rattraper par des conceptions de vie qui sentent plus le siècle que l'Évangile. Au contraire, ceux qui sont fidèles à la lecture de bons ouvrages ont toujours, de plus en plus, devant les yeux de l'âme et du cœur, les exigences d'une vraie vie chrétienne, bien unie au bon Dieu, comme les saints ont fait. Concluons, terminons, que la Sainte Vierge nous anime donc en ce mois d'octobre dans le combat contre ce monde des ténèbres dont nous parle saint Paul. Que le rosaire soit surtout une de ces armes que nous utilisions et que nous l'ayons souvent à la main pour être victorieux du démon. Le rosaire, en effet, nous maintient dans l'esprit de foi, dans l'esprit de mortification, de confiance en Dieu, d'union à notre Seigneur et dans ses mérites rédempteurs. Dignare me laudarete virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Faites-moi la grâce de vous louer, ô Vierge Sainte, donnez-moi force contre vos ennemis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.